Omphale, histoire rococo, par Théophile Gautier. Mon oncle, le chevalier de X, habitait une petite maison donnant d'un côté sur la triste rue des Tournelles et de l'autre sur le triste boulevard Saint-Antoine. Entre le boulevard et le corps du logis, quelques vieilles charmilles dévorées d'insectes et de mousses étiraient piteusement leurs bras décharnés au fond d'une espèce de cloaque encaissée par de noires et hautes murailles. Quelques pauvres fleurs étiolées penchaient languissamment la tête comme des jeunes filles poitrinaires, attendant qu'un rayon de soleil vînt sécher leurs feuilles à moitié pourries. Les herbes avaient fait irruption dans les allées qu'on avait peine à reconnaître, tant il y avait longtemps que le râteau ne s'était promené. Un ou deux poissons rouges flottaient plutôt qu'ils ne nageaient dans un bassin couvert de lentilles d'eau et de plantes de marais. Mon oncle appelait cela son jardin. Dans le jardin de mon oncle, outre toutes les choses que nous venons de décrire, il y avait un pavillon passablement maussade, auquel, sans doute par antiphrase, il avait donné le nom de délice. Il était dans un état de dégradation complète. Les murs faisaient ventre, de larges plaques de crépi s'étaient détachées et gisaient à terre entre les orties et la folle avoine. Une moisissure putride verdissait les assises inférieures. Les bois des volets et des portes avaient joué, et ne fermait plus ou fort mal. Une espèce de gros pot à feu avec des effluves rayonnantes formait la décoration de l'entrée principale. Car au temps de Louis XV, temps de la construction des délices, il y avait toujours, par précaution, deux entrées. Des aubes, des chicorées et des volutes surchargeaient la corniche toute démantelée par l'infiltration des eaux pluviales. Bref, c'était une fabrique assez lamentable à voir que les délices de mon oncle le chevalier de X. Cette pauvre ruine d'hier, aussi délabrée que si elle eut 1000 ans, ruine de plâtre et non de pierre, toute ridée, toute gercée, couverte de lèpre, rongée de mousse et de salpêtre, avait l'air d'un de ces vieillards précoces, usés par de sales débauches. Elle n'inspirait aucun respect, car il n'y a rien d'aussi laid et d'aussi misérable au monde qu'une vieille robe de gaz et un vieux mur de plâtre, deux choses qui ne doivent pas durer et qui durent. C'était dans ce pavillon que mon oncle m'avait logé. L'intérieur n'en était pas moins rococo que l'extérieur, quoique un peu mieux conservé. Le lit était de lampas jaunes à grandes fleurs blanches. Une pendule de rocaille posait sur un pied-douche incrusté de nacre et d'ivoire. Une guirlande de roses pompons circulait coquettement autour d'une glace de Venise. Au-dessus des portes, les quatre saisons étaient peintes en camaïeu. Une belle dame, poudrée de frimas, avec un corset bleu de ciel et une échelle de ruban de la même couleur, un arc dans la main droite, une perdrix dans la main gauche, un croissant sur le front, un livrier à ses pieds, se prélassait et souriait le plus gracieusement du monde dans un large cadre ovale. C'était une des anciennes maîtresses de mon oncle qui l'avait fait peindre en Diane. L'ameublement, comme on voit, n'était pas des plus modernes. Rien n'empêchait que l'on ne se crût au temps de la Régence, et la tapisserie mythologique qui tendait les murs complétait l'illusion « on ne peut mieux ». La tapisserie représentait Hercule, filant au pied d'Omphale. Le dessin était tourmenté à la façon de Vandelot, et dans le style le plus pompadour qu'il soit possible d'imaginer. Hercule avait une quenouille entourée d'une faveur couleur de rose. Il relevait son petit doigt avec une grâce toute particulière, comme un marquis qui prend une prise de tabac. En faisant tourner entre son pouce et son index une blanche flamèche de filasse. Son cou nerveux était chargé de nœuds de rubans, de rosettes, de rangs de perles et de mille affiquets féminins. Une large jupe gorge de pigeons avec deux immenses paniers achevait de donner un air tout à fait galant au héros vainqueur de monstres. Omphale avait ses blanches épaules à moitié couvertes par la peau du lion de Némée. Sa main frêle s'appuyait sur la noueuse massue de son amant. Ses beaux cheveux blonds cendrés avec un œil de poudre descendaient nonchalamment le long de son cou, souple et onduleux comme un cou de colombe. Ses petits pieds, vrais pieds d'espagnol ou de chinoise, et qui eussent été au large dans la pantoufle de Cendrillon, étaient chaussés de cothurnes demi-antiques, lilas tendres avec un semis de perles. Vraiment, elle était charmante. Sa tête se rejetait en arrière d'un air de crânerie adorable. Sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite moue. Sa narine était légèrement gonflée, ses joues un peu allumées. Un assassin, savamment placé, en rehaussait l'éclat d'une façon merveilleuse. Il ne lui manquait qu'une petite moustache pour faire un mousquetaire accompli. Il y avait encore bien d'autres personnages dans la tapisserie, la suivante obligée, le petit amour de rigueur, mais ils n'ont pas laissé dans mon souvenir une silhouette assez distincte pour que je les puisse décrire. En ce temps-là, j'étais fort jeune, ce qui ne veut pas dire que je sois très vieux aujourd'hui, mais je venais de sortir du collège et je restais chez mon oncle en attendant que j'eusse fait choix d'une profession. Si le bonhomme avait pu prévoir que j'embrasserais celle de conteur fantastique, nul doute qu'il ne m'eût mis à la porte et déshérité irrévocablement, car il professait, pour la littérature en général et les auteurs en particulier, le dédain le plus aristocratique. En vrai gentilhomme qu'il était, il voulait faire pendre aux roues de coups de bâton par ses gens tous ces petits grimauds qu'encore. La rivalité et la haine entre Galerius et Constantin vient d'éclater publiquement. Le prince, accusé d'avoir attenté à la vie d'Auguste, mais averti du danger qui le menaçait, a pris la fuite. Il a été arrêté à Calcédoine, ramené à Nicomédie et renfermé dans une étroite prison. Agathoclès apprend cette nouvelle. Il s'arrache des bras d'une épouse adorée, de son bonheur domestique, gagne à force d'or les gardes, mécontents d'ailleurs de voir leur chef qu'ils aiment dans les fers et condamné à la mort. Il les détermine à le laisser pénétrer un instant auprès de son ami, et cet homme vraiment héroïque et généreux engage Constantin à s'évader dans ses habillements, en le laissant à sa place, c'est-à-dire voué à une mort certaine et cruelle. Comprends-tu que Constantin ait accepté cet étonnant sacrifice? J'ignore par quel motif Agathoclès a su le persuader, mais il y a consenti, et peut-être est-il déjà à Byzance. La rage de Galerius ne connaît aucune borne. Il a fait publier, sous peine de mort, que personne ne hasarda de lui parler en faveur d'Agathoclès, qu'il déteste à présent bien plus que Constantin. L'exécrable Marcius, qui jouit auprès de lui de la plus haute faveur, et qu'il veut, dit-on, nommer César en lui donnant sa fille pour épouse, l'excite et l'anime encore contre notre malheureux ami, dont la perte est jurée. C'est ainsi que le mortel le plus vertueux que j'ai connu sera victime de son amitié exaltée et de la méchanceté. Il ne nous reste aucun espoir de le sauver. Avant-hier, il était encore chez moi, si heureux, si content, que mes jours de bonheur, au commencement de notre connaissance, se retracèrent involontairement à mon esprit. Et aujourd'hui, Dieu, aujourd'hui, ah, qu'est-ce que la vie et les sentiments et la prévoyance des mortels. Tiridate fut le premier instruit de cette affreuse nouvelle. Agathoclès lui envoya le soldat qu'il avait gagné pour le laisser entrer dans la prison et lui fit recommander sa femme et son enfant. La chose n'est pas trop naturelle, mais quand je te l'expliquerai, tu ne la comprendras guère mieux. Qu'il te suffise donc de savoir que tu ne cours aucun danger. Je crains que vous ne soyez le diable. Tranchons le mot, n'est-ce pas? C'est cela que tu voulais dire. Au moins, tu conviendras que je ne suis pas trop noir pour un diable, et que si l'enfer était peuplé de diables faits comme moi, on y passerait son temps aussi agréablement qu'en paradis. Pour montrer qu'elle ne se vantait pas, Omphale rejeta en arrière sa peau de lion et me fit voir des épaules et un sein d'une forme parfaite et d'une blancheur éblouissante. « Eh bien, qu'en dis-tu » fit-elle d'un petit air de coquetterie satisfaite. « Je dis que quand vous seriez le diable en personne, je n'aurais plus peur, madame Omphale. » « Voilà qui est parlé. Mais ne m'appelez plus ni madame ni Omphale. Je ne veux pas être madame pour toi, et je ne suis pas plus Omphale que je ne suis le diable. » « Qu'êtes-vous donc, alors ?»« Je suis la marquise de T. » Quelque temps après mon mariage, le marquis fit exécuter cette tapisserie pour mon appartement, et m'y fit représenter sous le costume d'Omphale. Lui-même y figure sous les traits d'Hercule. C'est une singulière idée qu'il a eue là, car Dieu le sait, personne au monde ne ressemblait moins à Hercule que le pauvre marquis. Il y a bien longtemps que cette chambre n'a été habitée. Moi, qui aime naturellement la compagnie, je m'ennuyais à périr, et j'en avais la migraine. Être avec son mari, c'est être seul. Tu es venu? Cela m'a réjoui. Cette chambre morte s'est ranimée, j'ai eu à m'occuper de quelqu'un. Je te regardais aller venir, je t'écoutais dormir et rêver, je suivais tes lectures. Je te trouvais bonne grâce, un air avenant, quelque chose qui me plaisait. Je t'aimais enfin. Je tâchais de te le faire comprendre. Je poussais des soupirs. Tu les prenais pour ceux du vent. Je te faisais des signes. Je te lançais des œillades langoureuses. Je ne réussissais qu'à te causer des frayeurs horribles. En désespoir de cause, je me suis décidé à la démarche inconvenante que je fais, et à te dire franchement ce que tu ne pouvais entendre à demi-mot. Maintenant que tu sais que je t'aime, j'espère que... » La conversation en était là, lorsqu'un bruit de clé se fit entendre dans la serrure. Onfale tressaillit et rougit jusque dans le blanc des yeux. « Adieu, » dit-elle, « à demain. » Et elle retourna à sa muraille à reculons, de peur sans doute de me laisser voir son envers. C'était Baptiste qui venait chercher mes habits pour les brosser. « Vous avez tort, monsieur, » me dit-il, « de dormir les rideaux ouverts. Vous pourriez vous enrhumer du cerveau. Cette chambre est si froide. » En effet, les rideaux étaient ouverts. Moi, qui croyais n'avoir fait qu'un rêve, je fus très étonné car j'étais sûr qu'on les avait fermés le soir. Aussitôt que Baptiste fut parti, je courus à la tapisserie. Je la palpai dans tous les sens. C'était bien une vraie tapisserie de laine, raboteuse au toucher comme toutes les tapisseries possibles. Onfale ressemblait au charmant fantôme de la nuit, comme un mort ressemble à un vivant. Je relevai le pan, le mur était plein. Il n'y avait ni panneau masqué, ni porte dérobée. Je fis seulement cette remarque, que plusieurs fils étaient rompus dans le morceau de terrain où portaient les pieds d'Onfale. Cela me donna à penser. Je fus toute la journée d'une distraction sans pareille. J'attendais le soir avec inquiétude et impatience tout ensemble. Je me retirais de bonne heure, décidé à voir comment tout cela finirait. Je me couchai. La marquise ne se fit pas attendre. Elle sauta à bas du trumeau et vint tomber droit à mon lit. Elle s'assit à mon chevet et la conversation commença. Comme la veille, je lui fis des questions, je lui demandai des explications. Elle éludait les unes, répondait aux autres d'une manière évasive, mais avec tant d'esprit qu'au bout d'une heure, je n'avais pas le moindre scrupule sur ma liaison avec elle. Tout en parlant, elle passait ses doigts dans mes cheveux, me donnait de petits coups sur les joues et de légers baisers sur le front. Elle babillait d'une manière moqueuse et mignarde, dans un style à la fois élégant et familier, et tout à fait grande dame, que je n'ai jamais retrouvée depuis dans personne. Elle était assise d'abord sur la bergère à côté du lit. Bientôt, elle passa un de ses bras autour de mon cou, je sentais son cœur battre avec force contre moi. C'était bien une belle et charmante femme réelle, une véritable marquise qui se trouvait à côté de moi. Pauvre écolier de 17 ans, il y avait de quoi en perdre la tête. Aussi, je la perdis. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer, mais je pressentais vaguement que cela ne pouvait plaire au marquis. « Et monsieur le marquis, que va-t-il dire là-bas, sur son mur ?» La peau du lion était tombée à terre, et les cothurnes lilas tendres glacées d'argent gisaient à côté de mes pantoufles. « Il ne dira rien, » reprit la marquise en riant de tout son cœur. « Est-ce qu'il voit quelque chose ? D'ailleurs, quand il verrait, c'est le mari le plus philosophe et le plus inoffensif du monde. Il est habitué à cela. M'aimes-tu, enfant ? Oui, beaucoup, beaucoup. » Le jour vint, ma maîtresse esquiva. La journée me parut d'une longueur effroyable. Le soir arriva enfin. Les choses se passèrent comme la veille, et la seconde nuit n'eut rien à envier à la première. La marquise était de plus en plus adorable. Ce manège se répéta pendant assez longtemps encore. Comme je ne dormais pas de la nuit, j'avais tout le jour une espèce de somnolence qui ne parut pas de bon augure à mon oncle. Il se douta de quelque chose. Il écouta probablement à ma porte et entendit tout, car un beau matin, il entra dans ma chambre si brusquement qu'Antoinette eut à peine eu le temps de remonter à sa place. Il était suivi d'un ouvrier tapissier avec des tenailles et une échelle. Il me regarda d'un air rogue et sévère qui me fit voir qu'il savait tout. « Cette marquise de T est vraiment folle. Où diable avait-elle la tête de s'éprendre d'un morveux de cette espèce ?» fit mon oncle entre ses dents. « Elle avait pourtant promis d'être sage. Jean, décrochez cette tapisserie, roulez-la et portez-la au grenier. » Chaque mot de mon oncle était un coup de poignard. Jean roula mon amant Onfale, ou la marquise Antoinette de T, avec Hercule, ou le marquis de T, et porta le tout au grenier. Je ne pus retenir mes larmes. Le lendemain, mon oncle me renvoya par la diligence de B chez mes respectables parents, auxquels, comme on pense bien, je ne soufflais pas un mot de mon aventure. Mon oncle mourut. On vendit sa maison et les meubles. La tapisserie fut probablement vendue avec le reste. Toujours est-il qu'il y a quelque temps, en furetant chez un marchand de bric-à-brac pour trouver des momeries, je heurtais du pied un gros rouleau tout poudreux et couvert de toile d'araignée. « Qu'est-ce là ? » dis-je à l'Auvergnat. « C'est une tapisserie rococo qui représente les amours de Madame Omphale et de Monsieur Hercule. C'est du Beauvais, tout en soie et joliment conservé. Achetez-moi donc cela pour votre cabinet. Je ne vous le vendrai pas cher parce que c'est vous. » Au nom d'Omphale, tout mon sang reflua sur mon cœur. « Déroulez cette tapisserie, » fis-je au marchand d'un ton bref et entrecoupé comme si j'avais la fièvre. C'était bien elle. Il me sembla que sa bouche me fit un gracieux sourire et que son œil s'alluma en rencontrant le mien. « Combien en voulez-vous ? » « Mais je ne puis vous céder cela à moins de 400 francs, tout au juste. »« Je ne les ai pas sur moi, je m'en vais les chercher. Avant une heure, je suis ici. » Je revins avec l'argent. La tapisserie n'y était plus. Un Anglais l'avait marchandée pendant mon absence, en avait donné 600 francs et l'avait emportée. Au fond, peut-être vaut-il mieux que cela se soit passé ainsi et que j'aie gardé intact ce délicieux souvenir. On dit qu'il ne faut pas revenir sur ses premières amours, ni aller voir la rose qu'on a admirée la veille. Et puis, je ne suis plus assez jeune ni assez joli garçon pour que les tapisseries descendent du mur en mon honneur. Ainsi s'achève Omphale, histoire rococo de Théophile Gautier.